EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Bonjour, je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des formations de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Un peu comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société. On s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous sommes avec vous une fois par mois pendant 30 minutes. C'est déjà notre deuxième saison qu'on termine ce mois-ci. Donc c'est l'occasion pour nous de vous partager notre passion pour l'éducation populaire et on vous propose un tour d'horizon de ce qui constitue selon nous l'EducPop sur le territoire. On découvre des sujets, des outils et des invités au fil des émissions. Bienvenue dans EducPop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'Université populaire de Valence en la personne d'Annie. Bonjour Annie.
Bonjour.
Et de Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Qui vont nous en dire plus sur les origines et les missions de leur structure. Parce que pour nous, CEP, petite et jeune association du territoire, l'Université populaire de Valence a des airs d'institution historique. Implantée depuis 25 ans, aidée par la ville avec le prêt de locaux, regroupant 450 adhérents et proposant plus de 100 activités, nous, du haut de nos bientôt 5 ans à CEP, on se dit « mais quand on sera grande, on veut être comme ça, on veut être comme l'Université populaire, avec des étoiles plein les yeux ». J'imagine que la réalité est un petit peu plus nuancée, et du coup c'est ça qu'on va découvrir dans cette émission. Du coup, Annie et Thierry, est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter ?
Alors Annie, je suis membre fondateur de l'Université populaire de l'agglomération valentinoise.
Ok, pardon.
Voilà, depuis bientôt 25 ans et je suis actuellement la présidente de cette belle association.
Ok. Et toi Thierry ?
Alors moi, je suis seulement depuis 7 ou 8 ans dans l'Université populaire. Je suis un ingénieur à la retraite et je suis actuellement administrateur de l'UPAVAL.
Donc OCA.
OCA.
Ok, merci. Eh bien moi, j'ai envie que vous commenciez par raconter un peu l'histoire de l'Université populaire de l'agglomération de Valence, donc UPAVAL.
Voilà.
Pour les intimes. C'est quoi les origines ? D'où ça vient ? Comment c'est né ? C'est quoi un peu l'histoire ?
Eh bien, ça remonte à maintenant un peu plus de 25 ans. Enfin, 25 ans, oui. On travaillait encore, mais on allait souvent à l'Université populaire de Romans. Mmh. Accès Romans, qui existait déjà depuis quelques années. Et on trouvait que ce qui s'y faisait, c'était sympa, c'était ouvert, c'était varié. Et on s'était dit à deux, trois, ça serait bien peut-être, quand on sera à la retraite, on en créera une à Valence. Puis finalement, on n'a pas attendu. Et d'autres avaient eu la même idée. Et les relations des uns des autres, on s'est retrouvés aller à une douzaine. Dans l'appart d'une amie et on a commencé à cogiter sur la création d'une université populaire dans l'agglo. On ne savait pas où on serait encore hébergé, où est-ce qu'on aurait notre siège social ou quoi que ce soit, c'était encore trop peu incertain. Et on est parti et les idées ont fusé.
Ok, donc un petit groupe dans les années 2000. Voilà. Qui va à l'Université populaire de Romans. Quel type d'activité vous avez participé à Romans qui vous a donné envie ?
Alors, on allait, je me souviens, à des conférences. Je me souviens être allée sur l'histoire de la diaspora, arménienne. C'était très intéressant. Ils faisaient aussi des ateliers de travaux manuels, ce qui était fréquenté par pas mal de jeunes. Et Accès Roman s'était déjà un peu distingué. Elle faisait du soutien scolaire.
Ok.
Et donc, je sais que, par exemple, mon fils y était allé. Pour...
Ok. Et du coup, donc cette aventure commence, comme souvent dans les associations, dans le salon de quelqu'un.
Exactement.
Vous organisez ensemble pour commencer à faire la même chose, donc proposer des activités. Vous avez l'idée de vous monter en association tout de suite ?
Oui. Ouais. Oui, oui. Très, très, très rapidement, on ne pensait pas que ça ne pouvait pas... Enfin, il n'y avait pas d'autres alternatives. Il fallait se monter en association. Et donc, on est parti. Le premier programme, il a été... Ben, c'est par les connaissances des uns et des autres et les relations. Et puis, il y en a même certains qui ont fait eux-mêmes des formations.
T'as fait ça, toi ?
Non, pas moi. Okay. Pas moi. Je bossais, j'étais déjà très bien occupée. Et à l'époque, je ne me sentais pas d'en faire. Et, mais voilà, on a monté un petit programme. Et on s'est dit que très rapidement, il nous fallait des locaux.
J'allais demander ça. Où est-ce que vous avez fait vos activités ?
Eh bien, voilà. Et donc, une des instigatrices, qui était Marie-Françoise Blanc, qui a été notre première présidente, était de Bourg-lès-Valence. Et elle a dit, ben, on va solliciter la mairie de Bourg-lès-Valence.
Okay, dès le départ.
Et donc, on a eu un accueil chaleureux et on nous a dit, ben oui, votre projet est super et on vous soutiendra.
Ok, trop bien. Et du coup, c'était le même genre d'activité, donc des conférences dans des domaines de la culture, des loisirs.
Exactement. Ok. Oui, tout à fait. Et... très rapidement, on a été très, très éclectique hein, dans notre programmation. C'est ce qu'on voulait. On voulait...
Très diversifié.
Oui, voilà. Très, okay. Très diversifié. On voulait véritablement s'ouvrir au plus grand nombre.
Ok, c'était ça le principe fondateur,
oui.
La valeur principale.
Oui, okay. Ouais, ouais. On voulait s'ouvrir au plus grand nombre. Donc, ben, très rapidement, on a eu une mise à disposition de nos locaux, de locaux. D'abord, une grande salle dans l'ancienne école Jean Vacher. À Bourg-lès-Valence, okay. Qui est derrière la mairie. Donc très bien situé. Et puis, rapidement, on a eu d'autres salles. Donc on a trois salles mises à disposition dans ces locaux de la rue...
Du Valentin.
Du Valentin. Okay. Et c'est encore les locaux dans lesquels vous êtes là ?
Oui. Okay. Nous n'avons pas bougé depuis lors.
Voilà. Ok, très
et
bien.
Ils sont très utilisés, voilà.
Ok. Et bon, nous, on est une structure qui se dit d'éducation populaire et c'est un peu le sujet de cette émission. Est-ce que vous vous êtes rattaché dès le début aux pratiques d'éducation populaire, au mouvement d'éducation populaire ? Est-ce que c'était un endroit d'où vous veniez vous-même ? Comment ça s'est fait le lien ? Est-ce que c'est un peu dans le nom université populaire ?
Oui. Alors, il faut dire qu'au départ, il y avait de nombreuses... Enfin, dans les membres fondateurs, il y avait une majorité d'enseignants.
Ok.
Donc, qui étaient très motivés pour diffuser des enseignements, mais au-delà, je dirais, des cercles institutionnels.
Mmh, voilà. Okay.
Donc, voilà, c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'enseignants.
Okay. Voilà. Et puis de s'adresser à un public adulte aussi, parce que...
S'adresser avec un public adulte, mais pas que.
Ok.
Mais pas que. Quand on a commencé, on avait globalement beaucoup plus d'adhérents de moins de 20 ans
okay.
qu'à l'heure actuelle.
Ok, d'accord.
Voilà. Là, quand on parlera de l'évolution, on pourra effectivement évoquer ce sujet.
Ouais, ok. Voilà. Et donc, rattachement à l'éducation populaire par le fait de vouloir donner accès au plus grand nombre à
sans condition, sans condition de diplôme, sans condition d'âge.
Ok.
Ça, voilà. Et au-delà de ça, nous avons très rapidement adhéré à l'Association des Universités Populaires de France, l'AUPF, et où on a puisé effectivement des idées, des exemples. Tous les ans, on allait au colloque des universités populaires, et donc pour rencontrer voilà, apprendre ce qui se faisait ailleurs.
Ok, trop intéressant. Et bien, avant de vous questionner plus avant sur les valeurs et les pratiques et les évolutions, on va faire une petite pause musicale, et nous allons écouter Qui Frater les Kids Fucked Up de Théa.
Des enfants, on est des courandeurs. On veut que le beau temps et la ville tout entière. Je voudrais pas me méprendre, mais je crois qu'on vous emmerde. On se défonce et on danse, on se défonce et on danse. On connaît le goût du sang juste au bout des lèvres. Il y a quelques années, on pensait se foutre en l'air. On a passé 20 ans et c'est fou quand même. On doit rien à la chance, on doit rien à la chance. J'étais tellement seul, j'ai traîné sur mon ordi. T'étais jamais sobre et tout le monde était parti. J'étais tellement seul et t'étais tellement souvent à l'hôpital. J'étais mal dans mon corps et j'allais pas leur dire. Je prenais toutes les drogues qui passaient en free party. J'étais tellement seul et t'étais tellement souvent à l'hôpital. Une banque ou une cigarette. Y'a dans nos packs de samples comme un cri à l'aide. On fume là le boucan quand la nuit s'amène. Mais personne nous entend, personne nous entend. Méfie-toi des anges à qui on scie les ailes. Y'a personne qui m'attend, bébé, je suis immortel. Y'a tes mains sur mes hanches, alors nique sa mère. Nique sa mère, nique sa mère. J'étais tellement jeune, je pensais pas m'en sortir. Qui se fout du sort? Des ados en deuil qui s'enfoncent dans le sol, s'enfoncent dans le sol à l'aube du crash. Plus rien nous fait peur, tout est déjà sorti. On vit dans les sables, on nique dans les orties. Plus rien nous fait peur, plus rien nous fait peur. Alors dis-moi, qui frater les kids fucked up? Dis-moi qui frater les kids fucked up? Dis-moi qui frater les kids fucked up ce soir?
Nous sommes de retour dans l'émission EducPop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Nous sommes toujours avec Annie et Thierry de l'Université populaire de l'agglomération de Valence. Valentinoise, pardon. Alors, vas-y, redis-le-moi le nom correctement.
Université populaire de l'agglomération valentinoise.
Très bien, merci pour cette correction. Et on était en train de discuter de l'histoire et des origines de l'UPAVAL. Et moi, j'avais encore quelques questions sur les valeurs et les pratiques d'EducPop. Parce que nous, à CEP, une des façons qu'on a de se revendiquer de l'éducation populaire, c'est à travers nos pratiques. C'est la place qu'on laisse à l'expérience des personnes, au fait de mutualiser nos connaissances et d'aller ensemble vers de l'émancipation et du pouvoir d'agir ensemble. Et je me demandais, vous, à quoi ressemblent les pratiques à l'UPAVAL ?
Alors, nos pratiques n'ont rien de forcément, au départ, de très original. Hein. Quand un conférencier, entre guillemets, veut faire passer quelque chose, eh ben, il présente avec les outils du moment. Hein. Alors, ça a dû évoluer. On utilise tous les moyens techniques du moment, bien sûr. Hein, mais donc, après, c'est vrai que un conférencier n'est pas forcément toujours un grand professionnel de la communication, mais ça se travaille et... voilà, le tout étant... Alors, on tient beaucoup au contact physique avec les participants,
donc
les
une
adhérents.
Une forme de proximité, quoi.
Une proximité, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on fait des visios, mais nous, notre truc, c'est plutôt l'échange direct. Et parce qu'on considère que c'est plus humain et c'est plus interactif. Hein, on peut poser des questions plus facilement. Alors, c'est sûr que... faut pas non plus tomber dans le truc très scolaire que pour certains ça peut être douloureux, mais voire repoussoir. Alors aujourd'hui, les gens plébiscitent beaucoup les sorties, les visites.
Ok.
Hein, on a eu l'occasion notamment d'introduire depuis quelques années des visites d'entreprise.
Ok.
Alors, même si le bassin valentinois n'est pas un haut lieu industriel de la France, mais on a visité l'entreprise GPA à Livron, les stations météo, les châteaux d'eau, les traitements d'air, les méthanisations.
Ouais, le fait d'aller sur le terrain pour voir à quoi ça ressemble, quoi.
Voilà. Hein, puis nous, ça nous a aussi, enfin, notamment moi qui ne suis pas originaire d'ici, de découvrir aussi ce tissu qui est très proche et qu'on connaît mal. Donc, c'est toujours intéressant. Et on a vu que les gens... sont passés, j'allais dire, des thèmes habituels de littérature, d'histoire, etc., qui perdurent, qui sont toujours très demandés, mais à une recherche d'ouverture de leur environnement immédiat et puis ce qui est en général fermé. Alors, tout n'est pas très facile à
organiser.
Par exemple, dans les entreprises, beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas des ouvertures.
Montrer les coulisses.
Voilà. Soit montrer les coulisses, soit pour des raisons de confidentialité, tout simplement. Soit parce que c'est difficile, des fois, de promener un groupe dans une entreprise.
Okay.
Après, ce qui marche bien, entre guillemets, c'est lorsqu'on fait une conférence... sur un sujet et un atelier ou une visite derrière. On a pu faire, par exemple, dernièrement, la visite des volcans d'Ardèche. Et donc, il y avait une conférence avant pour caler un peu les choses, mettre un peu les gens au même niveau, j'allais dire. Et ensuite, c'est illustré lors d'une visite, lors d'un atelier, etc. Donc ça, c'est toujours très apprécié.
Ok, et du coup, j'entends déjà une évolution. Donc, dans les sujets proposés, tu disais des sujets au début plutôt classiques, littérature, etc., vers des choses plus sur le terrain. Et ça, moi, ça me parle beaucoup, puisque un des objectifs pour moi de l'éducation populaire, c'est de donner aux gens du pouvoir en leur monde et du coup d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Ça fait complètement sens. Est-ce que vous avez vu d'autres évolutions? Là, j'ai entendu tout à l'heure, Annie, tu disais que vous aviez pas mal d'adhérents. La plupart de vos adhérents étaient en dessous de 20 ans.
Alors, au tout départ, nous avions des adhérents en dessous de 20 ans, chose qu'on n'a plus maintenant.
Ok.
Et clairement, en l'espace de deux bonnes décennies, nos adhérents ont vieilli, on va dire les choses comme elles sont, et on a une majorité de retraités. Voilà.
Okay.
C'est vrai que dans les débuts de l'université populaire, on avait essayé de mettre en place des collaborations, notamment avec les lycées, etc.
Okay.
Et on avait essayé de faire un petit peu aussi de l'accompagnement des jeunes, mais ça n'a pas trop accroché. Et à l'heure actuelle, ce n'est même pas ce n'est même plus d'actualité, on va dire. On a fait aussi le choix de ne pas aller sur les mêmes plates-bandes, par exemple, TMJC ou MPT, etc.
Oui, voilà. De se penser en complémentarité et pas de poser la même chose.
On est plutôt en complémentarité, exactement.
Ouais, ok.
Donc ça c'est important de le souligner. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a une majorité de retraités, mais pas que. On a une majorité de femmes, les deux tiers, des femmes. Alors, à croire qu'elles sont plus curieuses que ces messieurs.
Mais non.
Je ne sais pas ce que va en penser Thierry.
Et le l'UPAVAL, du coup, fonctionne... Enfin, c'est entièrement bénévole, toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation. Et est-ce que, là aussi, vous avez vu une évolution dans les personnes impliquées dans...
Alors oui, il y a une évolution. Là aussi, au début, on avait énormément de gens qui travaillaient, qui s'investissaient dans la vie associative. Là, à l'heure actuelle, la majorité des bénévoles sont des retraités.
Ouais, ok.
Voilà. C'est comme ça. On a du temps à y consacrer. Mmh. Voilà. Alors... bénévole, ok, mais très rapidement, l'Université populaire a émis le souhait, parce que le bénévolat, ben, ça a des limites aussi. On a très rapidement engagé une salariée.
Ok.
À l'époque, il y avait les emplois aidés, donc on avait saisi l'opportunité. Et donc, on a embauché quelqu'un, une jeune femme, et on a un emploi depuis lors. Mmh, à temps partiel, mais qui est précieux parce que effectivement, elle peut recevoir. Il y a des permanences. Elle s'occupe. Une association qui compte plus de 450 adhérents, qui a une centaine d'activités, c'est une grosse machinerie.
Ouais.
Et il faut pouvoir l'articuler.
Ah bah oui, la coordonner.
La coordonner.
Ah oui, c'est clair. Et du coup, donc 450 adhérents, une salariée, et il y a combien de bénévoles qui contribuent à l'organisation?
Alors Thierry,
une trentaine.
Okay.
Une bonne trentaine, voilà.
Ah, c'est pas mal.
Mais c'est pas mal, mais c'est pas peut-être. Voilà, il faut renouveler nos troupes, il faut toujours d'autres idées, c'est jamais suffisant, pour se dire les choses. Et on accueillera volontiers toutes les bonnes volontés pour compléter nos troupes.
Oui, oui. Peut-être ce qu'il faut ajouter pour caractériser cet engagement, c'est-à-dire que, pour en avoir discuté avec Annie et d'autres fondateurs, c'est-à-dire qu'au départ, on avait plutôt des militants de la cause, de l'éducation populaire.
Ouais, okay.
Aujourd'hui, j'allais dire, c'est un engagement bénévole un peu plus classique, quoi.
Okay,
alors, on essaye de réexpliquer, mais c'est pas forcément évident. C'est un changement culturel dans l'esprit des bénévoles. Le militantisme, ça ne se décrète pas.
Ok, parce que du coup, vous aviez dit qu'au début, c'était surtout des enseignants qui constituaient le groupe d'organisation, et du coup, qui se disaient militants.
On se disait pas militants, on l'était.
Ok.
On l'était, on croyait véritablement en notre projet et on s'est engagé là-dedans. Mais oui, il y avait du militantisme, mais il n'était pas revendiqué en tant que...
Ouais, mais c'était un feu qui vous animait de donner accès à tout le monde,
exactement,
à la culture.
Exactement. Okay.
Et donc ça c'est... Avec le renouvellement des personnes, c'est quelque chose qui a un peu disparu et ça devient...
Alors, je ne sais pas si ça a complètement disparu, mais on est plus à l'heure actuelle... vers un engagement, parce que ça nécessite un engagement.
Oui, c'est du temps, de l'énergie.
C'est du temps, de l'énergie, beaucoup d'énergie, oui.
Ouais.
Et donc, j'aime bien la phrase du militantisme à l'engagement bénévole. Oui, c'est ça.
Ok, mais alors, c'est un sujet qui me passionne et qui, en même temps, me prend la tête, l'engagement bénévole. comment on le caractériserait? Parce que... Enfin, on peut un peu tout mettre derrière ce terme-là. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on est passé un peu du militantisme à la bonne action, où on donne quelques heures parce que on participe aussi à ces activités, on a envie de rendre. Enfin, genre, comment ça s'est transformé en fait? De quoi on parle sans faire un peu de langue de bois, quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été perdues ou...
Moi, je suis pas d'accord avec à bonne action. Ça,
très bien.
Non.
Oui, au-delà de ça, c'est peut-être pas la bonne action qui est un peu écuménique, un peu. Mais c'est je pense que les bénévoles viennent pour... Ils voient que c'est une grosse machinerie, comme dit Annie, mais donc ils veulent faire leur part, et plus modestement, et ils voient que les choses s'articulent bien, sans avoir forcément la vision globale de la chose.
Peut-être... Peut-être l'ambition politique qui s'est un peu réduite et ça reste un endroit de contribution et de...
Après, c'est peut-être, j'allais dire, normal entre une petite structure d'une douzaine de membres ou peut-être une cinquantaine. Chacun voit que son action est essentielle pour faire fonctionner et que l'objectif doit être en permanence rappelé, etc. Donc d'où l'esprit militant. Après, quand la structure devient plus importante, c'est un peu comme une entreprise. Hein, quand elle grossit, il y a une phase de croissance. Et après, moins de gens ont la vision globale et chacun voit que la petite part qu'il fait, mais on voit bien que ça ne peut plus être caractérisé de la même manière.
Ouais, une forme un peu de dilution et de spécialisation.
De spécialisation aussi.
Tout à fait.
Quand arrive l'informatique, par exemple, le site informatique, au départ, ça n'existait pas.
Tout à fait. Hein,
c'était fait à la main. Et donc, le site informatique, c'est pas n'importe qui peut s'en occuper. Il y a quelques spécialistes qui font l'intermédiaire avec les gens qui le font tourner.
Et avant de communiquer sur comment avoir vos infos et vos prochaines dates, dire deux mots des financements. Tu t'en parlais.
Alors, les financements, nous avons bien sûr été aidés au départ par quelques subventions exceptionnelles. Et là, globalement, la majorité de nos revenus viennent des adhésions et de contributions à chaque activité. Alors, certaines activités sont gratuites, d'autres, la plupart sont payantes. Les subventions ne représentent que 5% du budget, du budget global.
Ah ouais, c'est vraiment minime.
Oui.
Si j'ai mon rêve d'être subventionné.
Oui, ça représente que 5%. Nous sommes aidés principalement par les communes, bien sûr, de Bourg-lès-Valence, de Valence et de Saint-Marcel. Ce sont nos soutiens, je dirais, historiques.
Et du coup, ça veut dire que même avec 450 adhérents et 100 activités, les pouvoirs publics ne se disent pas c'est un acteur majeur de faire vivre des activités dans le coin et ça mérite qu'on y mette de l'argent, quoi.
Alors, ils nous ont aidés. Là, il y a quelques années, on a eu, 2-3 ans, on a eu un petit creux financier juste après le Covid parce qu'on avait essayé de maintenir la plupart de nos activités et donc ça nous avait plombé nos finances. Ils ont tous répondu favorablement à nos demandes de subventions exceptionnelles. Ça nous a permis de remonter, de remonter la pente.
Très bien.
Voilà. Après, on sait bien que les associations, ça tient de manière... toujours, la balance est toujours un peu compliquée.
Et oui, un équilibre précaire et difficile, difficile à tenir.
Voilà.
Merci beaucoup. Alors, pour avoir les infos sur vos activités, il y a le site de l'UPAVAL, donc www.upaval.com. Vous allez présenter le programme de l'année 2026-2027 le 18 juin.
Tout à fait, à 18h30, à la salle des mariages de la mairie de Bourg-lès-Valence.
Super.
J'attends nombreux.
Et le site avec le programme sera
ouvert. Le site sera ouvert plus tôt cette année. On pourra adhérer et s'inscrire aux activités à partir du 29 juin.
Trop bien. Donc, je vous rappelle, upaval.com. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cette émission. Les prochaines dates de l'association CEP sont les suivantes. Vendredi 19 juin, il y aura la formation Politiser le secteur de la santé, une formation de une journée à la MPT de Chauny de 9h à 17h30 sur les oppressions et discriminations systémiques qui traversent le soin et comment on fait pour les prendre en compte pour mieux soigner. Le mardi 23 juin matin, de 9h à 14h, il y aura la seconde session de questions brûlantes, questions puissantes sur le thème de l'argent cette fois, où l'objectif est de politiser des enjeux personnels à travers une question qu'on travaille pour qu'elle nous mette en mouvement. Donc atelier puis repas partagé ensemble. Ensuite, cet été, du 17 au 19 juillet, ce sera le retour de la formation Même Pas Mal sur masculinité et vulnérabilité. Ça aura lieu dans la Loire, à 40 minutes de Saint-Étienne et à 1h de Lyon. Ensuite, on se donnera rendez-vous à la rentrée avec encore une fois le retour de cette fois Même Pas Peur, la formation sur repolitiser la peur pour en faire une force de transformation personnelle et collective. Ce sera le week-end du 12 et 13 septembre à Valence. Et je finis avec l'annonce de la prochaine foire des possibles qui aura lieu le dimanche 4 octobre. Pour s'inscrire à tout ça, vous pouvez aller sur le site internet de CEP, cep-asso.fr. Merci à tout le monde
et on se retrouve à la rentrée. Bon été.
EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.